J'aimerais aujourd'hui lire et commenter le Koan numéro 9 du recueil de la falaise bleue, le Hikigan Roku, les quatre portes de Joshu. Mais avant d'aborder le Koan, il est bon de savoir que les maîtres zen adoptaient parfois le nom de l'endroit où ils établissaient leur temple, leur monastère ou leur ermitage. Ils pouvaient ainsi adopter le nom d'une montagne voisine, d'un village proche, ou même d'une rivière située non loin. Le maître Joshu avait adopté le nom du village de Joshu, qui était situé à courte distance de son temple. L'histoire de Joshu est assez remarquable. Il est l'un des plus grands maîtres du Zen. Parlons un peu de lui avant d'aller plus loin. Joshu a vécu de 778 à 897. Il étudia pendant plus de 40 ans auprès du maître Nansen. Et le premier éveil de Joshu, à l'âge de 19 ans, est raconté dans le Koan 19 du Momonkan. L'esprit ordinaire, c'est la voie. Après la mort de son maître, Joshu resta 3 ans au monastère pour prendre soin de la sépulture de Nansen. Il entreprit ensuite un long pèlerinage et parcourut la Chine pendant plus de 20 ans afin de rencontrer d'autres maîtres spirituels et poursuivre sa pratique du zen. On dit de lui qu'il aimait errer dans les montagnes de la Chine, où les maîtres zen de cette époque avaient établi de modestes ermitages en forêt afin de fuir les persécutions qui frappaient alors de plein fouet les monastères bouddhistes de la Chine impériale. À l'âge de 80 ans, Joshu consentit enfin à mettre fin à son pèlerinage et vint s'établir dans le monastère de Kuan Yin, près du village de Joshu. Il y enseigna pendant les 40 dernières années de sa vie et mourut à l'âge de 120 ans, sans laisser de successeur. Le Koan que nous étudions aujourd'hui date de cette dernière époque de la vie de Joshu et fait le récit d'une rencontre au monastère entre le maître et un visiteur. Le Koan se lit comme suit. Un visiteur demanda à Joshu, « Parlez-moi de Joshu. » Joshu répondit, « La porte de l'Est, la porte de l'Ouest, la porte du Sud, la porte du Nord. » Le village et le maître se nomment Joshu. Le visiteur demande à maître Joshu de lui parler de Joshu. Mais quelle est vraiment sa question? Veut-il simplement mieux connaître le village? Par exemple, combien de personnes y habitent ou quelles en sont les principales activités économiques? Ou est-ce autre chose? La question du visiteur est ambiguë. La réponse de maître Joshu l'est tout autant. La porte de l'Est, la porte de l'Ouest, celle du Nord et celle du Sud. L'on peut imaginer que le village de Joshu était entouré d'un mur ou d'une palissade et que l'on pouvait y entrer et en sortir par 4 portes situées respectivement à l'est, à l'ouest, au sud et au nord. Le jour, ces portes étaient probablement ouvertes afin de permettre les allées et venues des commerçants, des voyageurs et aussi des paysans qui quittaient le village pour aller travailler aux champs. La nuit venue, on les fermait probablement afin d'assurer la sécurité du village. Le visiteur veut qu'on lui parle de Joshu et le maître lui répond en lui parlant, semble-t-il, des portes du village. Que se passe-t-il entre maître Joshu et son visiteur? Il existe une autre version de ce Coran. Elle est légèrement différente et elle jette un autre éclairage sur ce qui joue ici. Elle se lit comme suit. Un visiteur demanda à Joshua, « Parlez-moi de Joshua. » Joshua répondit, « La porte de l'Est, la porte de l'Ouest, la porte du Sud, la porte du Nord. » Le visiteur poursuivit en disant, « Je ne parle pas de ce Joshua-là. » Joshua répondit, « De quel Joshua parlez-vous donc? » Lorsque le maître répond, la porte de l'Est, la porte de l'Ouest, celle du Sud et celle du Nord, de quel Joshua lui-même parle-t-il? Si l'on vous demande, qui êtes-vous? Qu'allez-vous répondre? Dans quelle direction allez-vous vous tourner pour vous trouver vous-même? Quelle porte allez-vous ouvrir? Celle de l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud? Allez-vous regarder à l'intérieur de vous-même ou à l'extérieur dans le monde? Et à partir d'où allez-vous regarder? Nous croyons presque toujours que nous sommes séparés du monde. Je suis pour ainsi dire ici et le monde est là-bas, à l'extérieur de moi. Il y a entre moi et le monde une sorte de fossé infranchissable. Je suis né dans un monde qui existait avant moi et je mourrai dans un monde qui continuera d'exister sans moi. Et c'est un peu la même chose avec ceux et celles que je côtoie. Nous sommes séparés, semble-t-il, les uns des autres. Nous le resterons toujours. Et lorsque je mourrai, les autres continueront leur vie sans moi. Il en va ainsi, n'est-ce pas? Ou n'est-ce qu'un rêve? Dans son livre « Que suis-je? » M. Lowe écrit « Nous rêvons que nous sommes nés, et nous rêvons que nous allons mourir, et tout ce temps, nous rêvons que le rêve est réel. » Laissez-moi vous raconter une histoire. Imaginez un arbre, disons en automne. Imaginez maintenant un homme. Il se tient du côté est de l'arbre. Botaniste de métier, il observe attentivement les feuilles de l'arbre et constate qu'elles sèchent prématurément cette année. Il s'en inquiète et prend quelques notes dans un cahier. De l'autre côté de l'arbre, c'est-à-dire à l'ouest. Une jeune femme passe dans la rue et voyant que quelques branches sèches sont tombées de l'arbre, sans doute à cause des pluies et des vents forts qui ont balayé récemment le quartier, elle se souvient du plaisir qu'elle trouvait lorsqu'elle était petite à construire de minuscules maisons avec des brindilles, quelques feuilles mortes et de petites branches sous l'arbre géant, du moins lui paraissait-il géant à l'époque, qui se trouvait devant la maison de sa grand-mère à la campagne. Du côté nord de l'arbre, un homme de race noire regarde l'arbre. Il se rappelle que l'un de ses grands-oncles a autrefois été pendu aux États-Unis par une milice ségrégationniste à l'une des hautes branches d'un arbre qui ressemblait peut-être à celui-ci. Il n'a rien connu de cette époque, mais on lui a raconté l'histoire. Elle court dans sa famille depuis si longtemps. Enfin, du côté sud de l'arbre, un promoteur immobilier évalue qu'il lui faudra sans doute débourser quelques milliers de dollars de plus pour faire abattre cet arbre encombrant afin de créer des espaces de stationnement public à cet endroit. Si l'on demande à l'une ou l'autre de ces quatre personnes, « Avez-vous vu l'arbre? » Elles répondront sans doute « Oui, bien sûr. » L'arbre est là, à l'extérieur, dans le monde. Mais qui l'a vu dans sa totalité? Le botaniste a vu l'arbre à partir de l'est. La jeune femme l'a vu de l'ouest seulement. L'homme de race noire se trouvait au nord et le promoteur immobilier au sud. Chacun a vu l'arbre d'un point de vue particulier. Il y a l'arbre de l'est, de l'ouest, du nord et celui du sud. Ce n'est jamais le même arbre, n'est-ce pas? Et ceux qui l'ont vu, peuvent-ils être séparés de leur point de vue? Il en va de même pour nous. Nous vivons tous et toutes dans un monde particulier. Nous ne vivons pas dans le monde. Nous vivons dans un monde. Et ce monde, c'est le nôtre. C'est le monde auquel nous sommes présents. Et ce monde change d'instant en instant. Nous ne pouvons jamais le quitter. Et nous l'habitons de notre naissance à notre mort. M. Loup disait souvent, « Vous êtes continuellement en samadhi. Tout comme un miroir ne peut être séparé de ses reflets et de ce qu'il reflète, celui ou celle qui voit l'arbre qui est vu et l'arbre lui-même sont un. On peut les distinguer l'un de l'autre. Mais dans l'expérience immédiate, ils ne peuvent être séparés. Notre état naturel est le samadhi, l'unité, une totalité sans discontinuité, écrit encore Albert dans la forge du maître Aquin. Dans le samadhi du miroir précieux, un poème du 9e siècle, le maître Shan Tozan Ryokai écrit « Comme en vous contemplant dans un miroir précieux, la forme et le reflet se regardent. Vous n'êtes pas le reflet, mais le reflet est vous. » Dans ce monde que nous habitons d'instant en instant, que nous le regardions de l'est, de l'ouest, du nord ou du sud, nous ne voyons que des reflets de nous-mêmes. Ces reflets, ce sont toutes les expériences que nous traversons, et elles changent sans cesse. Mais nous ne changeons pas. Nous restons chez nous, comme enveloppés de silence, au-delà de toutes les formes qui apparaissent et disparaissent en nous. En allant et venant, nous restons chez nous, nous dit maître Aquin. Nous ne vivons pas dans un monde qui se trouve quelque part à l'extérieur de nous, un monde que nous partagerions tous. Ce monde-là, que l'on dit objectif, est une création de l'esprit. Il n'y a aucun monde en dehors de la totalité de notre expérience. Le soi vit dans un monde où il n'y a rien d'autre que le soi. Le monde et le soi sont inséparables. Ils sont un. De ce point de vue, dès notre naissance, un monde apparaît en même temps que nous. Et c'est dans ce monde que nous vivons toute notre vie. Lorsque nous mourons, ce monde, à l'intérieur duquel il n'y a que notre propre soi, meurt avec nous. Comment pourrait-on le laisser derrière soi? Le botaniste a vu l'arbre à partir de l'est. La jeune femme l'a vu de l'ouest seulement. L'homme de race noire se trouvait au nord et le promoteur immobilier au sud. Chacun a vu un arbre. Et cet arbre, qu'il soit de l'est, de l'ouest, du nord ou du sud, n'est jamais le même. Comment pourrait-il le partager ou le laisser derrière eux. Ne prenez pas ce que vous entendez ici avec légèreté. Les maîtres zen nous encouragent à méditer ces paroles jusqu'à ce qu'elles pénètrent profondément notre esprit et sèment le doute et l'incertitude dans notre cœur endormi. Posez-vous la question, y a-t-il un monde en dehors de moi? Si vous êtes honnête, vous répondrez « Oui, bien sûr, je le vois, je le sens, je peux le toucher. Bien sûr, il y a un monde qui est là. » Comme elle paraît étrange, cette question. Nous ne la posons jamais, n'est-ce pas? Tant il nous semble évident que le monde est là, à l'extérieur de nous, solide, immuable. Nous disons qu'il nous entoure de toutes parts, et que nous vivons toute notre vie à l'intérieur de lui. Mais tout de même, posez-vous la question. Y a-t-il un monde en dehors de moi? L'arbre de l'Est est-il le même que l'arbre de l'Ouest? Et celui du Nord est-il celui du Sud? Et où se trouve l'arbre lui-même? Et qui le voit? Vous êtes ici, assis en zazen dans ce zendo. Mais qui voit le zendo? N'y a-t-il pas ici aussi un zendo de l'Est, un zendo de l'Ouest, un zendo du Nord et un zendo du Sud? Le visiteur dit à Maître Joshu, « Parlez-moi de Joshu. » Lorsque ce dernier lui répond, la porte de l'Est, la porte de l'Ouest, celle du Nord et celle du Sud. Le visiteur croit que Maître Joshu lui parle du village qui est près du monastère. Il répond alors, « Je ne parle pas de ce Joshu-là. » Et Maître Joshu lui demande alors, « Mais de quel Joshu parlez-vous donc? » La plupart du temps, nous traitons les concepts abstraits que nous utilisons dans notre pensée dualiste ordinaire comme s'ils étaient des réalités. Lorsque, par exemple, nous disons le monde ou le zendo, nous croyons que le monde ou le zendo existe là-bas, en dehors de nous. Nous vivons dès lors dans un monde créé par ces concepts, une sorte de monde qui existe sans nous, à l'extérieur de nous, un monde dans lequel il y a ce que l'on appelle les 10 000 choses du monde, des arbres, des villages, des guerres, d'autres personnes. Ce monde qui existe là-bas, en dehors de nous, est fixé par le langage. Dans ce monde, un arbre est toujours un arbre, quel que soit le point de vue d'où on le regarde. Il existe indépendamment de nous. Il existe là-bas, dans le monde. Et j'existe comme lui, dans le monde. Dans l'esprit du visiteur, Maître Joshu et le village de Joshu sont à l'extérieur. Ils existent dans le monde. Et dans son esprit, ce monde est solide et objectif. Dans son esprit, nous partageons tous ce monde. Dans son esprit, nous vivons tous dans le même monde. Et c'est à partir de là, à partir de ce monde illusoire et immobile qui apparaît dans son propre esprit, que le visiteur cherche Joshu. Et que lui répond Maître Joshu? Joshu lui dit, « La porte de l'Est. » La porte de l'Ouest, la porte du Nord, la porte du Sud. Il ne ferme aucune porte. Il laisse ouvertes toutes les possibilités, toutes les ouvertures par lesquelles un monde peut apparaître. Dans l'esprit de Maître Joshu, rien n'est fixé. Tout est vivant. tous les reflets peuvent aller et venir. Leur unique destin est d'apparaître et de disparaître librement. Le maître Zen Basui écrit quelque part « L'univers et vous-même êtes d'une même racine. Vous et chacune des choses est une unité. Le murmure du ruisseau, le bruissement du vent sont votre voix. La verdure du sapin, la blancheur de la neige sont votre couleur. » Imaginez maintenant que le visiteur eût plutôt demandé à Maître Joshua « Parlez-moi de l'arbre qui est dans la cour du monastère. » Et que Maître Joshua lui eût répondu « L'arbre de l'est, l'arbre de l'ouest, celui du sud, celui du nord. » Le visiteur dirait peut-être alors « Je ne parle pas de ces arbres-là. » Et Maître Joshua pourrait alors lui répondre « Mais de quel arbre parlez-vous donc ?» Ce n'est pas que les arbres n'existent pas, mais ils n'existent pas comme nous imaginons qu'ils le font. Les arbres éternels qui existent dans notre esprit sont des illusions. Nous ne sommes jamais séparés des arbres. Et ce n'est pas que le monde n'existe pas, mais il n'existe pas comme nous l'imaginons. Le monde immuable qui existe dans notre esprit, ce que l'on appelle le monde objectif, est une illusion. Nous ne sommes jamais séparés du monde. Et ce n'est pas que ce Zendo n'existe pas, mais il n'existe pas comme nous l'imaginons. Il n'y a pas de Zendo en dehors de nous. Nous n'en sommes jamais séparés. M. Lowe traduisait le mot anglais « awareness » par le terme « présence ». Il disait parfois, en citant Maître Dogen, que si les oiseaux vivent dans l'air et les poissons dans l'eau, les êtres humains, eux, vivent dans la présence. Le samadhi est un retour à l'état de présence en tant que monde, écrit M. Lowe. La présence en tant que est notre état naturel. Cela veut dire que le Zendo est une expérience. L'arbre est une expérience. Le monde est une expérience. Le Zendo, l'arbre et le monde apparaissent en vous. Ils sont indissociables de votre expérience. Vous êtes l'arbre, le Zendo et le monde. Vous n'avez aucune forme, disait encore notre vieux maître. Mais vous vous manifestez sous toutes les formes. Et Maître Yakujo en parle avec les mots suivants. Notre nature véritable ne discrimine pas, mais profite des fleurs jaunes ambiantes pour se manifester. Comme c'est beau, notre nature véritable ne discrimine pas, mais profite des fleurs jaunes ambiantes pour se manifester. Si, comme le visiteur de Maître Joshua, vous demandiez au Maître « Parlez-moi du Zendo, de l'arbre et du monde », il vous répondrait peut-être « De quel Zendo, de quel arbre, de quel monde parlez-vous donc ?» Un poème dit « La lune, la même vieille lune, les fleurs telles qu'elles étaient. Maintenant pourtant, je suis devenu la choséité des choses. » Un chant hindou dit les mots suivants « Le Seigneur est dans mon œil, c'est pourquoi je le vois partout. Je le vois à l'est, je l'entends à l'ouest, je le touche au sud, je pense à lui au nord. Où est-il? Dans son livre sur Maître Aquin, M. Lowe raconte l'histoire suivante. Un maître zen a demandé à un moine, « Est-ce le temps qui est froid ou est-ce la personne qui ressent le froid? » Le moine a répondu, « Nous sommes tous ici. » Et Albert poursuit avec ces quelques mots. « Dedans, dehors, allez, venir, tout est contenu dans le samadhi. Nous sommes tous ici. » Ou comme le dit Aquin dans son chant du Zazen, « En allant et venant, nous restons chez nous. » Un jour, un visiteur demanda à Maître Joshua, « Parlez-moi de Joshua. » Joshua répondit, « La porte de l'Est, la porte de l'Ouest, la porte du Nord, la porte du Sud. » Le visiteur dit alors, « Je ne parle pas de ce Joshua-là. » Joshua répondit, « Mais de quel Joshua parlez-vous donc ? »